voie est libre.
N'avons-nous pas su, depuis un an et demi, y apporter une réponse suffisamment rapide et forte? Je prends ma part de cette responsabilité. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble.
Voici Luc Lavoie.
Bon, Luc Lavoie, salut.
Oui, salut Bernard.
Alors, c'est Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre, le président français. Et dans le fond, toi, là, tu veux nous parler de ça parce que tu t'inquiètes que la situation de contestation ouverte et généralisée perdure en France. Puis on s'entend que si la France devient complètement ingérable, puis c'est le chaos là-bas, c'est pas une bonne affaire pour nous autres ici, là.
Pour personne, hein? Pour personne.
C'est pas une bonne chose pour le monde occidental, pour l'Europe non plus, là.
Ben non. Hein? Puis ça peut en inciter d'autres à prendre la rue aux
et
autres
voilà,
aussi.
Parce que
n'oublions pas que Macron, hier, il a reculé, mais il a reculé beaucoup, là.
Pas à peu près.
Pas à peu près, là. Ça coûte 10 milliards d'euros que ça coûte ce qu'il a annoncé
15
hier.
15 milliards de dollars.
Ouais, c'est pas mal d'argent, hein.
Surtout pour un pays qui est en déficit, puis qui a une dette du yaourt.
Ben, qui est presque dans la même situation que des pays comme le Portugal, puis l'Espagne, puis la Grèce. Et lui, justement, les réformes qu'il apportait, c'était pour faire face à ça. Mais en France, ça me semble-t-il, rien ne doit mourir, rien ne doit changer, comme dans Maria Chapdelaine de Louis Aymon,
oui,
au Québec.
Qui est un Français d'origine, d'ailleurs.
Alors moi, je constate qu'après son allocution, il y a un sondage qui a été fait en France pour la chaîne LCI, et il n'y a que 54%. Des gens sondés qui sont pour l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve ça inquiétant. Ça, c'est une France coupée en deux, là.
Mais c'est quand même mieux que les 78% qui les appuyaient il y a encore quelques jours. C'est passé, dans le fond, de 78 à 54, on peut dire.
Pas tout à fait, parce que le chiffre que tu utilises, c'est maintenant 66. Qui les appuie, il y a 66% des Français qui continuent d'appuyer les Gilets jaunes. Okay. Là où ça change, pensez-vous que le mouvement devrait arrêter de faire ses manifs?
OK.
54% disent oui, 46% disent non.
46% disent qu'il faut continuer?
Oui. Alors moi,
Mais
je ne sais plus comment lire tout ça. Évidemment que ce que le jeu politique que fait Macron, c'est qu'il a essayé de les essouffler, de les épuiser, de les traîner le plus longtemps possible pour essayer de trouver le moment clé pour intervenir. Il devait avoir choisi d'intervenir dans ce sens-là depuis plusieurs jours. Il devait attendre justement un autre week-end où le mouvement allait continuer à se déployer pour ensuite s'essouffler. Mais là, ce que je constate, c'est que ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Sais-tu quoi, Luc? Je suis content, dans le fond, qu'on ait commencé par ce sujet-là, parce que je vais demander aux gens, puis ça me brûle, moi, cette question-là, puis je vais demander aux auditeurs de nous appeler pour nous dire s'ils pensent qu'un mouvement comme celui-là pourrait survenir ici, chez nous.
Oui.
OK? Parce que vous savez ce qui s'est passé en France, là. Essentiellement, c'est la surtaxation et la perte du pouvoir d'achat qui est le moteur de cette contestation-là. Il y a plein d'autres enjeux. Mais essentiellement, il a voulu leur imposer une taxe sur le carburant, puis là, le monde, le couvercle
est sauté. Pour respecter ses engagements de réduire les gaz à effet de serre.
Exact. Et là, le monde, il était pas contre l'environnement, c'est juste la taxe de plus, le monde a fait comme c'est assez. Puis là, le couvercle a vraiment sauté. Et je vous pose la question, 790-9850, juste un petit sondage, là, un petit focus group. Je dis souvent, vous êtes le meilleur focus group qu'il ne peut pas y avoir. 98985, 790-9850. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se produire un mouvement comme celui-là chez nous, Luc? Et je te pose, tu es le premier à qui je pose la question.
J'en doute énormément. D'abord parce qu'on n'a pas cette tradition française. Les Français, là, la Révolution de 1789, les gens ne l'ont pas oublié, mais prendre la rue en France fait partie des mouvements politiques, que ce soit le Bloc populaire dans les années 30, que ce soit les gaullistes, que ce soit mai 68, prendre la rue est une façon de faire de la politique en France. Et c'est probablement presque unique à la France, cette
une forme de démocratie populaire radicale.
Radical, hein? Oui. Radical. Et effectivement, le président de la République française, sa résidence, c'est un palais, c'est le palais de l'Élysée. D'ailleurs, hier, Macron avait choisi d'être toujours dans la lignée des présidents de la République, c'est-à-dire, il a parlé en direct de l'Élysée, avec ses dorures et tout ça.
Est-ce qu'il aurait dû sortir du cadre, justement?
Moi, je pense pas, parce qu'il aurait attiré l'attention sur le fait qu'il est sorti du cadre.
Et sur le fait qu'il est faible,
et sur le fait qu'on aurait dit, il se déguise, qu'est-ce qu'il prend, où est-ce qu'il s'en va avec ça?
Mais son problème à Macron, là, juste avant de prendre les premiers appels, parce que ça sonne, Luc, Son problème, je pense, à Macron, au-delà de la surfiscalité dont il n'est évidemment pas le premier responsable, je veux dire, ça fait des années que les Français sont taxés jusqu'à la moelle, mais je pense que c'est son ton puis sa manière, la manière avec laquelle il a regardé les Français pendant cette crise-là. Il les a pris de haut.
Oui, il les a pris de haut, puis il a utilisé des expressions assez douteuses, dans le genre, on envoie des tonnes de pognon pour l'aide sociale, puis les gens disent, mais d'en faire des tas de pognon, t'as l'air d'un banquier, t'as l'air d'un riche, tu viens nous...
Donc tu nous méprises.
Tu nous méprises, tu nous regardes, comme tu as dit, tu nous regardes de haut, tu comprends pas, tu comprendras jamais, ben la rue va te faire comprendre, mon pauvre toi.
Et puis il a fini par comprendre. Va dire, son ton était contrit hier en maudit, hein?
Ah, son ton était très contrit. Il a même eu la décence de s'excuser pour avoir blessé dans le passé.
J'ai choisi les mauvais
certains mots.
Voilà.
Alors, mais Macron aura-t-il la capacité de continuer à gouverner dans une atmosphère comme celle-là?
Oh.
D'abord, samedi va être un gros test.
Oui.
Samedi, là, si les Gilets jaunes recommencent à Paris et ailleurs, parce que le week-end dernier, à Toulouse, ça a brassé, à Marseille, ça a brassé.
Bordeaux,
ça a brassé. Ouais. Alors, on verra. Mais si la rue qui a gagné 10 milliards d'euros, 15 milliards de dollars grâce à ces protestations, ils se disent, on en veut plus. C'est parce que...
Puis il est au pied du mur. Le
il
gars
est au pied
ferme.
Du mur, il n'y a rien qu'il peut faire.
Comme on dit, il pisse le sang, là. Il pisse le sang actuellement, là. Hein?
Complètement. Il est au bout de son rouleau, complètement.
C'est ça, le maudit problème.
Politiquement, en tout cas.
Ah, absolument. OK, alors là, j'ai beaucoup de textos. Il y en a qui me disent, on est un peuple de moutons, on paye puis on se ferme la boîte. Malheureusement, jamais ça va arriver ici parce que les Québécois ont pas de couilles, ça chiale, mais quand c'est le temps de faire de quoi, le monde reste chez eux. Un autre qui dit on est trop moumoune. Bon, il y en a un qui dit avec QS qui veut amener la politique dans la rue, après l'expérience des carrés rouges, tout est possible, Bernard. Ça, c'est un bon argument.
C'est vrai que l'affaire des carrés rouges avait été importante. Même si Bernard avait porté le carré rouge lui-même.
Ah oui.
Puis il avait fessé sur ses casseroles, puis toute l'affaire.
Oui.
Tu croyais à ça, non?
Mais je croyais que la hausse des frais de scolarité de 82% n'avait pas d'allure. Moi, je me serais contenté de l'inflation. Mais sais-tu quoi? On va aller plutôt parler à Mathieu. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour.
Oui, allô.
Vous faites beaucoup de bruit, Mathieu. Arrêtez-vous deux secondes pour nous dire ce que vous voulez nous dire.
Oui, là, c'est-tu mieux?
C'est bon.
Nettement mieux.
Bon, parfait. Bien content de vous parler. C'est très intéressant, votre émission.
Merci.
C'est ça. Moi, je te souffle un peu. J'étais dehors. Bon. Moi, je trouve que le problème, là, ça a commencé dans les années 73-74, quand ils ont privatisé la Banque du Canada.
La Banque de France?
Je parle d'ici, là.
Si jamais ça
va se soulever.
Ça pouvait arriver ici.
C'est parce que ça a créé une dette monstrueuse. Dans le fond, il y en a de l'argent pour le peuple. Mais c'est juste qu'on paye la dette avec à des banques privées, qu'eux autres, après ça, ils font quoi avec l'argent, on sait pas, là, paradis fiscaux et tout. Alors, moi, je pense que la source du problème mondial même, c'est la privatisation des banques.
OK. Très bon, Mathieu. Merci pour l'appel. On va aller rejoindre Abder. Bonjour, Abder.
Bonjour, Bernard. Vous êtes un duo de choc que j'écoute à chaque jour sans faire plaisir.
Vous êtes gentil, merci.
Malgré que je ne partage pas les points de vue avec votre collègue, là, des fois, concernant le Québec.
Mais je vous comprends. Moi aussi, je l'endure. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Moi, j'endure, Bernard.
Alors, Abdel, est-ce que ça pourrait se produire au Québec, à votre avis, un mouvement comme les Gilets jaunes?
Non. Ça pourrait pas parce que, d'abord, c'est une affaire de conscience et de lutte syndicale. Là, parce que c'est vrai qu'en France, le peuple est sorti en dehors de ces organisations. Mais ici, je pense, de par ma petite expérience depuis 25 ans que je suis à Québec, ils n'ont pas cette culture, les Québécois. Je suis désolé de le dire, mais ils n'ont pas cette culture de sortie.
Ah ben, moi, vous savez, je suis d'accord avec vous, mais je m'en réjouis qu'il n'ait pas cette culture. La rue, c'est pas nécessairement la forme la plus harmonieuse pour une société.
Non, mais il y a du vrai dans ce que les gens... Il y a du vrai dans ce que les gens nous écrivent quand ils disent qu'on est un peu mouton. Moi, je dirais qu'on est... On est modéré. On a appris à être pragmatique.
On est très pacifique aussi. On est très pacifique comme peuple, OK? Parce que ces manifs-là...
Mais on n'est pas des excessifs. On est des excessifs dans le party. On est des excessifs... Mais en politique, on a tendance à être plutôt pragmatique, Luc.
Ouais, les seuls excessifs que je connais sont les séparatistes, mais ceux-là, on n'en parle pas.
Mario, sauvez-moi!
Oui, bonjour!
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour! Moi, je ne crois pas que ça puisse se produire parce que on n'est plus un peuple solidaire. On est encore de plus en plus individualiste. Même à l'intérieur des syndicats, les syndiqués se sont encore plus indépendants puis individuels, je veux dire. Mm. Fait que la cause qui est là est comme tout le temps, on repousse tout le temps à ça. Regardez, je vais vous donner le plus bel exemple. Nos gouvernements savent tout prendre l'argent. Fait que, aussitôt qu'il y arrive quelque chose, hop, on va aller taxer ça. Mais nous autres, quand on a l'indice au coût de la vie, exemple d'augmentation, on va avoir ça plus TPS TVQ tout le temps. C'est tout le temps plus TPS TVQ qu'on va payer. Fait que madame la mairesse, là, qui s'en va dire, on va mettre une augmentation des taxes au coût de la vie. Mais une augmentation des taxes au coût de la vie. Votre maison vaut pas 1 000 $, ton pinoche de maringouin, là. Elle vaut 300 000, fait que c'est... Non, mais c'est quoi l'affaire? C'est carrément rire de nous autres, là. Bon.
Merci, Mario.
Je veux dire comme lui, torpinouche
ben
de
oui,
maringouin.
C'est la première fois que j'entends ça, mais torpinouche de maringouin. Alors, il y a Jean qui nous écrit, il dit, les gilets jaunes, j'aimerais tellement ça que les Québécois aient les couilles de sortir pour les vraies affaires, pas seulement dans leur salon. On en a plein les baskets d'être surtaxés pendant que les gros bonnets ont la possibilité de profiter des petits amis et de leur pouvoir de cacher leur fric dans les paradis fiscaux. Il dit, ce qui vient tout anéantir, ce sont les maudits casseurs. Ça, c'est vrai que les maudits casseurs finissent à un moment donné par décrédibiliser les mouvements,
ben complètement,
les mouvements
pacifiques. Complètement, les hein? Black Blocs.
Ben oui, ben oui, ben oui.
Qui sont d'ailleurs des individus que je n'ai jamais... Il n'y a personne qui a réussi à m'expliquer c'est quoi qui les motive. Mais enfin, c'est...
La destruction, chose. La destruction.
Ben, coudonc, oui, c'est drôle de motivation.
T'sais, ben oui, mais qu'est-ce que... Vaste programme, comme aurait dit De Gaulle.
En effet.
Alors, il y en a un qui dit... Les Québécois, la seule façon de les faire sortir dans la rue, c'est quand le Canadien gagne la coupe.
C'est vrai, en plus, hein? Quand on gagne la coupe.
Oh, check bien celle-là. À Montréal... Ce serait les gilets oranges! Oh, c'est bon! La révolution Illuminati va faire réveiller le peuple québécois. Bon, bon, bon. Oh, Luc, on arrête ça. Je viens d'avoir une dépêche, là. Des coups de feu dans le centre-ville de Strasbourg.
Oh là là.
Au moins 2 personnes blessées au marché de Noël. Ça vient tout juste de nous arriver. Un tireur isolé aurait ouvert le feu sur des grandes arcades. Au moins 2 personnes touchées. Évidemment, on va vous donner plus de détails au fur et à mesure où on les obtiendra. Donc, ça vient de couper court à notre discussion. Je m'en excuse, les auditeurs, là, mais je veux vous informer au fur et à mesure où on a l'info. Il y a quand même un lien avec la France.
Mais on dirait qu'il y a un baril de prise en France. Écoute, la France a vécu dans les dernières années, Bernard, le Bataclan, Nice, le camion Bélier, toutes sortes d'autres attentats de ce genre-là. La France, il y a comme une maladie en France à l'heure
d'ailleurs,
actuelle.
Tu regardes...
Et un refus de changer. Un refus de changer.
Puis regarde le nombre de Français qui veulent immigrer au Québec. C'est hallucinant. Oui. J'en connais plusieurs. Celle qui m'a coupé les cheveux il y a quelques semaines de ça n'est une Française. Puis j'ai demandé pourquoi vous êtes venue. Elle me dit, la France, monsieur, c'est plus la France. Je me sens plus chez moi. Je ne suis plus bien. On n'est plus bien en France.
Il y a une tension palpable, tu le sais, Bernard, tu y étais récemment.
Puis les gens sont comme malheureux, Luc.
Ils sont très malheureux, ils sont très amers. Ils sont très, comment dire, ça se plaint beaucoup de tout.
Oui.
Et moi qui avais cru que Macron allait amener un vent de renouveau parce qu'il avait cassé le système des partis, puis il avait créé une nouvelle coalition...
Oui, oui.
Échec total à l'heure actuelle.
Absolument. Ce qu'il avait gagné, il l'a perdu, malheureusement.
Écoute, il vient de reculer.
Moi aussi, c'était comme toi. Je souhaitais, moi, sa réussite parce que je le voyais aussi comme quelqu'un qui allait décrisper un peu cette société qui est surréglementée, surbureaucratisée.
Énorme. C'est énorme, la bureaucratie.
C'est incroyable.
Énorme.
C'est un système qui est comme figé dans le temps, la France.
Ouais. Et
là,
tu peux pas toucher à rien.
C'est comme si Macron voulait donner de l'oxygène à cette société-là. Puis là, qu'est-ce que tu viens de se planter? C'est extrêmement dommage. On va s'arrêter parce qu'au retour, on a un autre sujet dont on veut vous parler, ça a rapport avec l'éducation au Québec, dans un instant.
Drainville PM. La voie est libre.
Je suis moi-même engagée par la commission scolaire depuis les 20 dernières années en congé sans solde parce que la tâche était trop lourde depuis 2 ans. Mmh. Et je suis en réflexion à savoir si je retourne ou pas après 20 ans d'emploi. Le mandat d'enseignement fait plus de sens.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était une enseignante, donc, hier, qui nous appelait pendant notre tribune là sur cette affaire de l'enseignante Katia Dufault,
oui,
que nous a dévoilé Patrick Lagacé dans un texte suivi d'un autre texte. Et dans le fond, c'est une enseignante qui n'en peut plus, qui a craqué, notamment parce que ses classes sont devenues ingérables. Et là, ce qu'on a appris, c'est que la commission scolaire, Luc, l'a essentiellement congédiée ou veut la congédier.
Et là, entrepris des démarches.
Et là, la commission scolaire dit, c'est pas parce qu'elle a parlé aux médias qu'on veut la congédier, c'est pour une autre raison. Mais là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a dit, ben moi, en tout cas, je veux protéger la liberté de parole des enseignants quand ils sortent publiquement pour dénoncer ce qu'ils vivent.
Alors lui, il a dit, c'est d'abord la liberté de parole, il veut briser la loi du silence, et plus encore, il souhaite que dans la prochaine convention collective, quand ils vont devoir renouveler les conventions collectives, il va ajouter... Je souhaite qu'il y ait une liberté de parole. Je souhaite que les enseignants et tout le monde qui intervient dans les écoles se sentent libres de nommer les problèmes, évidemment, en toute honnêteté, et dans un souci d'améliorer les services.
C'est un bon coup, ça?
Ben, je trouve que c'est un bon coup qu'un ministre se lève puis qu'il dise, regarde, là, on commencera pas à jouer à baïonner les gens ici, là. Je veux dire, les enseignants, ce sont mes enfants qui sont entre leurs mains. Je veux savoir ce qu'ils pensent. Je veux connaître leur point de vue, moi. Je dis pas s'ils sont... Elle a pas fait du vandalisme. Elle a pas brisé son
elle
école.
Elle a pas... À ce que je sache, elle a pas volé l'école.
Elle a pas volé. Elle a pas rien fait. À moins qu'ils nous cachent quelque chose, mais je pense pas.
Ben, ils font des mystères un peu, la commission scolaire, parce qu'ils disent... Voilà. Ils disent... nous, on n'a jamais congédié personne pour avoir parlé aux médias. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que si l'ensemble des éléments de ce dossier avaient été partagés publiquement, ça aurait suscité beaucoup moins d'intérêt. Ils laissent entendre
qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais. Ils ont besoin de savoir ce qu'ils font. Parce que ça peut devenir de la diffamation, se conduire ainsi.
Ben, ils pourraient se faire poursuivre.
Tu crées des on fait une allusion, puis on s'amuse à faire des petits picossages comme ça. C'est dangereux, ça. Et moi, les propos de cette dame-là a tenu. J'ai trouvé ça... Ça m'a informé. Ça constitue une part de l'information. On m'a dit, ben, je veux le dire comment ça se passe dans nos classes. On va arrêter de voir des rapports de ministres puis de technocrates, puis tout ça, je vais vous le dire. Puis c'est pas beau, puis tout ça. Et Robert, j'ai trouvé qu'il s'est tenu debout. Malheureusement, il dit qu'il n'y a pas l'autorité administrative pour dire... non, vous ne la congédiez pas, parce que là, t'as tout le système des commissions scolaires. Mmh. Ça passe par la commission scolaire. Puis
c'est pas
ensuite,
lui l'employeur. L'employeur, c'est la commission scolaire.
C'est ça.
Ouais. Mais toi, t'es plutôt respectueux, en général, des processus. Tu sais que c'est la commission scolaire qui l'embauche. Tu serais pas du genre à souhaiter l'intervention directe et politique du ministre dans ce dossier-là, toi, là?
Non, je sais pas ça. Je ne fais que souligner qu'il dit, moi, ce que je peux faire, c'est donner des grandes orientations et aussi légiférer et aussi m'assurer que dans les conventions collectives, le droit à la parole va être reconnu. C'est sûr que il y a une autre façon de regarder ça en termes de l'angle de vue, disons, des avocats en droit du travail. On dit, tu peux pas aller sur la place publique pour parler contre ton employeur. C'est une sorte de devoir implicite.
De loyauté.
Et ça implique, entre autres, de garder le silence. Et si tu as quelque chose qui ne fait pas ton affaire et que tu veux dénoncer, ben, tu démissionnes puis tu dénonces.
Ouais.
Ou tu fais les deux simultanément. Ça, c'est vrai qu'en droit du travail, c'est vrai. Sauf que, c'est une enseignante. Elle enseigne à mes enfants. Elle n'a pas l'air... Moi, je ne l'ai pas vue en personne. Je n'ai lu que les textes de Patrick. Mais ça n'a pas l'air d'une folle.
Non.
Rien de ça, là.
Ce qui lui donne sa crédibilité aussi, c'est d'abord, elle témoigne à visage découvert.
Complètement.
Hein? Bon, premièrement. Puis deuxièmement, son histoire ressemble à l'histoire de plein d'autres enseignants et enseignantes qui nous appellent. Luc, tu fais une émission de radio à Québec.
Oui.
Ils nous appellent, ils nous écrivent. Les enseignants... Les enseignantes en particulier, parce qu'il y a d'avant beaucoup, beaucoup plus de femmes, sont au bout du rouleau, Luc.
Oui, puis ils sont... Écoute bien ce que je veux dire. Ils sont pas payés assez cher aussi.
Bon.
Je te le dis, moi.
Bon.
Ben, je veux dire, écoute, tu regardes...
T'as raison.
Ils sont pas payés assez cher.
Le Legault a dit qu'il paierait plus cher, d'ailleurs.
Ben là, Legault, là, d'abord, j'étais très content qu'il fasse de son discours inaugural, qu'il fasse de l'éducation son thème central.
Ouais.
Ça faisait longtemps que je souhaitais qu'un gouvernement le fasse réellement. Là, il s'est engagé, il a été très loin. Il y en a même un ministre de l'Éducation qui me semble avoir beaucoup d'allure, Roberge. On l'a connu dans l'opposition.
Mm-mm.
C'est un gars qui a des positions sur l'éducation très claires.
Puis il est enseignant, quoi, 17 ans?
Quelque chose
comme
ça.
Il connaît le tabac, là.
Puis il a beaucoup réfléchi à ça. Et évidemment que ça va susciter toutes sortes de demandes. Les gens vont dire, ben moi, je suis dans tel milieu de l'éducation, puis je voudrais ci, ça. Mais c'est le temps que ça change à l'éducation. Si le Québec est pour continuer de survivre dans sa forme actuelle, c'est-à-dire une société francophone, francophones en terre d'Amérique, il faut que cette société jouisse d'un système d'éducation exceptionnellement bon pour toujours être capable de se mesurer aux autres. Puis si on veut conserver notre langue puis notre culture, faut qu'on l'enseigne dans sa littérature, il faut qu'on l'enseigne dans la façon de l'écrire, il faut qu'on l'enseigne dans la façon de le parler.
De s'exprimer.
Alors, le ministre d'Éducation, il y a beaucoup de pain sur la planche. Mmh.
Et puis, hey, là, c'est beau ce que tu viens de dire, là.
Mais c'est vrai.
non, mais le pays, tu ris, mais je suis sérieux. J'ai trouvé ça très beau. Les dernières 30 secondes, là.
Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est comme ça qu'on va survivre.
Tu as raison.
On va survivre en étant éduqué, en étant moderne, ouais. En étant prospère, ouais. En étant libre. Ouais. Et dans une société, l'éducation.
Qui valorise.
C'est fondamental.
Qui valorise la connaissance et qui combat l'ignorance.
Voilà, et moi, je suis très critique du gouvernement Legault, mais sur l'éducation, ils peuvent compter sur moi pour toujours les appuyer.
Très bien, mon Luc Lavoie. Je te laisse aller.
Salut, Bernard.
Salut, mon Luc. À demain.
Bye.
Bon, puis là, il y a Martin McGuire qui s'en vient parler de hockey. Wouhou!